Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Ça y est, nous sommes de retour, Porte de Versailles, au Salon des maires et des collectivités locales. J'ai été rejoint par le légendaire Sylvain Lévy-Valency. Comment ça va, Sylvain ?
Je vois pas de qui vous parlez.
Donc, je sais pas, je vous flatte un peu.
Je vous le dis, oui. Vous connaissez le proverbe, hein. Voilà. Comment ça va, Grégoire ?
Moi, très bien.
Alors, on a une belle journée quand même qui s'annonce, puisqu'on a de la neige pendue.
Hein. Exactement.
Avec beaucoup, beaucoup d'influence ici dans le Hall 3. Et on va parler d'un sujet majeur qui est celui de la rénovation énergétique. Oui. Et ça tombe bien, parce que je crois qu'on a un spécialiste sur le plateau.
On a un expert à ma gauche qui est Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Helio. Bonjour Pierre-Marie.
Bonjour Grégoire, bonjour Sylvain, ravi de vous retrouver.
Qu'est-ce qu'on dit Pierre-Marie ? Allez l'OM.
Alors, on commence bien cette émission. Pierre-Marie, bon, on va
faire un peu d'humour parce que les maires en ce moment, ils sont quand même assez ébranlés par les décisions gouvernementales. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, être maire de France, c'est plus qu'un sacerdoce, c'est carrément un engagement. Donc l'objectif aussi de ces émissions, c'était de faire dire et de faire s'exprimer des personnes qui ne sont pas toujours visibles ou audibles, les maires de France, qui sont les seuls aujourd'hui à travailler au quotidien face à un État qui ne cesse de leur briser les élans pour pouvoir fabriquer leur territoire. Voilà, une fois que je l'ai dit.
Voilà. C'était l'envolée de Sylvain de début d'émission. Et Sylvain, on va peut-être parler avec notre invité de rénovation énergétique.
Bah justement, ça en fait partie.
Ça en fait partie, tout à fait.
Il n'a échappé à personne que le fonds vert a été réduit comme une peau de chagrin. Mmh. Et justement, j'aimerais, avec vous, Pierre-Marie, comme on le fait d'ailleurs tous les mois, hein, dans les villes de France, que ça fait quelques années maintenant qu'on parcourt avec notre ami Olivier Marin, Le Figaro, les territoires. La rénovation énergétique, c'est un enjeu majeur. Mais on n'a franchement pas l'impression que les moyens s'alignent et ça devient de plus en plus complexe. Est-ce qu'on peut décrypter avec vous l'actualité du moment ?
Alors effectivement, c'est très complexe, mais Sylvain, on peut quand même saluer l'ingéniosité de l'ensemble des maires de France qui réussissent à trouver des solutions dans cette situation qui est extrêmement compliquée et complexe, notamment dans la recherche de financement. Donc aujourd'hui, vous le disiez, le contexte est compliqué. On se retrouve, les élus perdent quasiment 1 milliard d'euros de financement du fonds vert dans le budget 2025. Donc il faut trouver des marges de manœuvre. Il faut s'attaquer à la rénovation énergétique qui est un des grands chantiers du siècle. Et les bâtiments des collectivités territoriales, il y a à peu près 225 000 bâtiments publics des collectivités en France. C'est énorme. C'est un coût de plus de 32 euros par habitant d'énergie.
Ah ouais. Sur quelle base statistique, c'est quoi la
source ? C'est l'ADEME.
Ah, c'est l'ADEME. Ah oui, c'est énorme.
Qui fait des études. C'est énorme. Donc, chaque année, un habitant met 32 euros pour le flux et pour l'énergie des bâtiments publics seulement des collectivités territoriales. Donc, c'est énorme. C'est un coût du parc d'entretien de 280 millions d'euros par an. C'est colossal. Donc aujourd'hui, on a des écoles à rénover, on a des bâtiments publics, on a des petites communes qui n'ont pas forcément l'ingénierie technique et qui doivent mobiliser des financements. Et comment est-ce qu'ils le font ? Ils le font grâce à des entreprises privées qui vont les aider à se renseigner, à maximiser les financements, qui peuvent être des financements publics, des financements européens, qui peuvent être aussi grâce au certificat d'économie d'énergie, qui est une aide qui est payée par les fournisseurs, qui mobilise quasiment 6 milliards d'euros par an et qui va financer un raccordement au réseau de chaleur, qui va financer la rénovation d'une école, qui va financer la rénovation d'un plancher bas, d'une isolation.
Est-ce que par exemple une mairie, l'éclairage public, ça en fait partie ?
Alors l'éclairage public en fait partie. C'était un des financements qui était très bien valorisé et aujourd'hui qui perd un petit peu. Puisqu'il y a des fiches standardisées qui ont été réduites. Donc on a moins de financement aujourd'hui qu'on en avait auparavant.
Alors parlons de financement justement. On va essayer d'égrener si vous voulez bien. Prenons le cas d'un maire qui souhaite rénover des bâtiments publics, des écoles, des gymnases, un peu d'éclairage public. Par quoi il commence et quel est aujourd'hui l'arsenal, la boîte à outils qui permet à des maires, alors c'est votre spécialité de les accompagner, sur quoi ils peuvent compter comme type de financement ?
Alors déjà, la clé, c'est de maîtriser et de comprendre quel parc on a. Donc l'élu doit savoir le nombre de mètres carrés, doit savoir l'état de son parc, doit faire des prévisions à 5, 10, 15 ans, doit pouvoir monitorer...
Il le connaît en règle générale ?
Non.
Non.
On se rend compte et on milite pour ça, qui est une photographie de l'existant de l'ensemble des bâtiments publics, État et collectivités territoriales. Aujourd'hui, c'est pas fait. Aujourd'hui, on se rend compte que nous, on accompagne des communes où on leur dit, en fait, si, ne serait-ce qu'en mettant, par exemple, dans une école, une salle de classe à tel endroit, une salle des profs à tel endroit, fermer une petite salle qui ne sert pas, on peut faire des économies de 15 à 20 %. Donc juste en réorientant l'activité de l'ensemble des bâtiments publics. Donc ça, la photographie du parc, c'est la première chose. Si on n'a pas fait ça, on n'est pas en capacité de dire dans 10-15 ans, voilà où est-ce qu'on va aller. Ouais. Le monitoring, très important, parce qu'on a aussi des surfacturations. Vous avez des fournisseurs d'énergie qui ne sont pas très regardants, qui facturent les communes, et les communes, elles ne font pas attention, elles ne regardent pas forcément ce qui se passe. Et nous, on a un logiciel spécifique qui va monitorer, qui va regarder et qui va comparer la consommation d'énergie totale, réel par rapport à la facturation. Et donc, de temps en temps, on a des écarts de 50, 60, 70 000 euros de surfacturation pour les communes. Donc ça, c'est très important, c'est la première chose. Une fois que vous avez fait votre audit, vous avez compris comment fonctionnait votre parc, vous allez aller chercher des financements. Soit vous allez aller voir le préfet de votre département qui va vous dire, ben voilà, monsieur le maire, madame la maire, il y a tel type de financement local, tel type de financement d'État que vous pouvez mobiliser. Ou le maire peut dire, bah moi je vais voir des acteurs privés. Elio par exemple, nous on travaille pour 2500 communes en France, et on va les voir et on leur dit, attention, il y a le fonds vert, l'État mobilise tel type de financement pour tel type de bâtiment public. Si vous raccordez votre bâtiment à un réseau de chaleur, on est signataire d'une charte coup de pouce qui va bonifier ces financements, et vous allez avoir un premier financement, et il va être bonifié parce que vous faites quelque chose qui va permettre de baisser votre consommation énergétique et surtout de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Financement public, financement étatique, financement privé, comme on en parlait tout à l'heure.
Les C2E. D'accord. Alors justement, le fonds vert, un vrai sujet. Il a bien baissé d'un milliard d'euros.
Alors pour l'instant, c'est l'annonce qui a été mise dans le PLF 2025.
Est-ce que le rabot va handicaper lourdement les maires de France ?
Oui, forcément. Quand on perd quasiment la moitié du financement...
parce que le fonds vert, ça représente la moitié du financement.
Non, c'est ce que je veux dire, c'est que le fonds vert, c'était 2,4 milliards à peu près. Ça, on va perdre 1 milliard. Donc on perd quasiment la moitié. Ouais. Donc du coup, forcément, vous grevez une grosse partie des financements qui étaient ouverts, les crédits ouverts.
C'est pas une réadaptation comme l'est la réadaptation du budget de MaPrimeRénov'. C'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil, c'est plus important. MaPrimeRénov', aujourd'hui, ça va être 2,3 milliards en 2025 et c'était 2,6 milliards, 2,7 milliards en 2024. C'est à peu près ce qui va être fait. Donc c'est une baisse, mais qui est moindre.
Alors. Les défis qui attendent les maires sont nombreux. On leur impose également une transformation de leur parc locatif, pas de leur parc de immeubles, je vais préciser. Et cependant, on ne cesse de leur ôter les marges de manœuvre financières. Ça devient une équation insoluble.
Équation qui est complètement insoluble. Donc du coup, qu'est-ce que font les maires ?
Qu'est-ce qu'ils font ?
Soit ils vendent une partie de leur patrimoine, mais ce n'est pas forcément la solution parce que la vente d'un patrimoine foncier, c'est un one-shot. Donc vous vendez, vous avez une rentrée d'argent, mais derrière, vous n'avez plus de rentrée de loyer, ni de rentrée fiscale. Donc soit vous faites appel à d'autres financements type MaPrimeRénov' parce que les collectivités territoriales sont éligibles pour des logements qui leur appartiendraient et qu'ils louent à des personnes physiques. Donc vous allez pouvoir avoir 90% de financement sur ces logements. Donc ça, c'est important. Ils peuvent le mobiliser. Ils ne le savent pas forcément. Mais on leur dit, MaPrimeRénov', c'est aussi accessible à vous. Et donc, c'est soit la vente, soit rénover le patrimoine grâce à des dispositifs financiers comme MaPrimeRénov', puis les relouer. Mais sinon, il n'y a pas d'autre issue.
Alors justement, on va continuer sur cette trajectoire. On voit bien que les maires sont soumises à cette équation. Il y a de l'eau qui a coulé un petit peu sous les ponts. Notamment la réflexion qu'a eu Michel Barnier sur les droits de mutation à titre onéreux qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, ce seraient les maires qui ont demandé, en fait, une injonction des maires ou des collectivités locales d'augmenter de 0,5% les droits de mutation. Je parle des droits de mutation parce que souvent, je ne supporte pas qu'on parle des frais de notaire. Ce ne sont pas des frais de notaire. Ce sont des droits de mutation. Plus de 90% de taxes.
80% sont des taxes, effectivement.
Absolument. Donc, il faut quand même le rappeler. Indépendamment de cela, on voit bien que la compensation liée à l'absence de la taxe d'habitation n'est pas forcément opérée avec des décalages importants. La question est la suivante. À l'heure où on débitume les cours d'école pour avoir des îlots de fraîcheur, ce qui est une très bonne idée, à l'heure où on veut ouvrir les écoles même en dehors des heures pour pouvoir donner aux habitants des possibilités d'aller dans un parc de proximité, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les maires, aujourd'hui ? Quelle est leur sensation ? Vous êtes issu des affaires publiques. Vous avez été aux affaires, vous avez été conseiller municipal, vous êtes aussi engagé en politique. Les maires aujourd'hui, ils sont dans quel état d'esprit ? Parce qu'on va les recevoir là. On en a déjà reçu un peu ce matin, je peux vous dire que c'est fébrile. Hein.
On avait d'ailleurs l'année dernière fait un sondage, il y a deux ans aussi, sur le sentiment des maires et ce qu'ils allaient se représenter en 2026. On se rapproche de l'échéance. Plus d'un tiers disait, moi, je rends le costume, je rends la cravate, c'est plus possible. En plus d'être, entre guillemets, passez-moi l'expression, emmerdé le soir, le week-end, et avoir une gratification et un traitement qui est ridicule.
Avec des indemnités qui sont incroyablement basses.
Incroyablement basses.
C'est vrai que ça passerait pas dans l'opinion de dire qu'il faudrait augmenter les indemnités des maires, mais quand on compare l'indemnité d'un maire, par exemple, à celui d'un parlementaire, tout simplement, c'est juste incroyable. Quelle injustice !
C'est une injustice profonde, et c'est pour ça aussi, et on le redit régulièrement, les jeunes ne s'engagent plus en politique. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand vous avez une famille, que vous avez 30 ans, que vous devez vous engager pour être maire, vous ne pouvez pas. Financièrement, c'est intenable.
Ah, mais c'est pas
tenable. Et puis, votre vie de famille, votre vie de tous les jours, elle est complètement grevée. Donc, pendant 6 ans, vous pouvez faire un trait. Et puis, surtout, vous êtes victime de violence, vous êtes victime...
Des maires de villes moyennes, on en a vu quelques-unes récemment, tout à fait. Entre 20 et 30 000 habitants, c'est entre 1 700 et 2 200 euros d'indemnité pour des personnes qui... aujourd'hui pourrait prévoir avoir sur d'autres secteurs le double, voire le triple de rémunération.
Et la grosse problématique, Sylvain, c'est qu'aujourd'hui, quand vous gagnez 2200 euros parce que vous êtes maire d'une commune de 35 000 habitants, qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie ? Eh bien, vous allez aller cumuler d'autres mandats. Et donc maintenant,
d'autres mandats où vous maintenez votre activité professionnelle.
Où vous maintenez votre activité professionnelle, mais c'est beaucoup plus difficile.
Oui, vous avez raison sur les mandats. L'erreur qui avait été faite, mais ça, c'est voilà. Peut-être que les choses seront réparables, parce que tout est réparable en politique. C'est la règle du cumul entre la députation ou le Sénat qui avait été interdit. Finalement, on a divisé le territoire en deux parties. On a les parlementaires d'un côté, finalement, qui sont un peu dans leur circo, mais qui, quand même, la plupart du temps, siègent à l'Assemblée et n'ont plus de vue sur le territoire, puisqu'ils ne sont plus maires.
Exactement.
C'est un vrai sujet, ça.
C'est un vrai sujet. Et on se rend compte qu'à chaque élection législative, on ne connaît plus son député. La valse des députés, ça change énormément.
Mais
pourquoi ? Parce qu'ils n'ont absolument aucun ancrage local.
Donc
vous avez des techniciens, vous avez des gens qui maîtrisent leur dossier au niveau national, mais qui sont complètement déconnectés de la réalité.
Donc aujourd'hui, parce qu'on leur demande d'être présents au niveau national toute la semaine.
Bien sûr.
La semaine, elle ne fait que 7 jours. On discutait avec Anaïs Glemeur la dernière fois, qui nous expliquait. Anaïs Glemeur, elle a un jour ou deux jours seulement par semaine où elle peut revenir dans sa circonscription. C'est le cas de beaucoup de députés, parce que 5 jours par semaine, ils sont demandés.
On a des maires d'ailleurs. Je ne sais pas si notre ami maire de Saint-Dizier vient venir sur le plateau pendant le salon. Quentin Brière, qui est un jeune maire dynamique, engagé, avec une vraie foi, ça, c'est réjouissant de voir des mecs comme ça qui s'engagent pour leur territoire. Je peux vous dire que c'est vraiment un vrai sacerdoce qu'on voit aujourd'hui, l'inégalité territoriale. Dernière question,
on organise tout à l'heure, dans le cadre du Salon des maires, une masterclass avec Florian Berco, qui est le maire de Laval, et qui, lui, a utilisé des financements très intelligents sur la rénovation énergétique. On est d'ailleurs allé visiter l'école qu'il a rénovée. Et lui, il a dit, moi, je vais lancer un nouveau truc. Je vais faire de l'intracting. C'est-à-dire que je vais financer ma rénovation énergétique sur les économies d'énergie que je vais réaliser postérieurement aux travaux.
Je l'adore.
Je vais utiliser les marchés globaux de performance énergétique à paiement différé. Donc je vais faire du tiers financement. Je vais utiliser des moyens qui sont en ma possession.
Mais
aujourd'hui.
Mais qui a soufflé l'idée ? Ce ne serait pas Elio par hasard ?
Elio, on travaille avec la ville de Laval depuis plus de 7 ans. Mais pas que.
Non, mais c'est une super idée.
Mais pas que.
Il faut essaimer.
Donc il faut essaimer. Et vous avez des jeunes élus. Et ça, c'est quand même très rafraîchissant quand vous voyez Quentin Brière, dont vous parliez tout à l'heure.
Florian, comme Quentin, sont des jeunes élus qui incarnent le renouveau de la politique française.
Et qui ont une expérience dans le privé aussi.
Avec une vraie foi.
Absolument. Ils savent ce que c'est que de travailler dans le privé.
D'ailleurs, je crois qu'on l'a invité, il me semble, Florian Berco.
Berco sera avec nous demain.
Il sera avec nous demain. On va d'ailleurs. Intéressant. Alors, elle est à quelle heure la masterclass ?
16h sur le stand d'Elio, pavillon 4.
Alors, c'est sur le stand d'Elio. On donne le numéro, bien évidemment. Voilà, on ne va pas se priver de faire un peu de pub. Bon, on est invité quand même, on peut venir à la masterclass.
Bien évidemment, vous êtes toujours invité,
Sylvain. Avec grand plaisir. C'est toujours réjouissant. Une dernière question. Pronostic. Là, le projet de loi de finances n'est pas encore adopté, on est d'accord. Bon, je pense qu'il va y avoir un coût institutionnel.
Petit 49.3.
Sait-on jamais, mais il y a peut-être.
C'est dans les tuyaux.
Une autre chose qui va se profiler, qu'on n'avait pas forcément vu venir. C'est une union sur la motion de censure.
Oui.
Car vous n'êtes pas sans savoir que, avec le Rassemblement national, qui était un peu sur l'expectative vis-à-vis du gouvernement Barnier, nous avions des motions de censure qui n'ont pas abouti, de l'autre force. D'accord ? Allez savoir si finalement, entre le Rassemblement national, une espèce de mariage absolument incroyable, uni par la haine commune, déclencherait une motion de censure qui ferait tomber le gouvernement.
Je vais vous dire quelque chose, Sylvain. Moi, je pense.
Dites-moi.
je n'ai pas de boule de cristal, mais je dis, les écuries aujourd'hui, elles sont dans l'optique de 2027. Aujourd'hui, ils ont tout intérêt à garder Michel Barnier Premier ministre et justement à construire leur discours pour 2027 et à ne pas se remettre dans une guerre d'élections législatives dès le mois de juillet. Donc moi, je pense qu'il n'y aura pas de motion de censure et d'alliance autour de la motion de censure.
Je prends le pari. On verra si le raisonnement qui prédomine, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout qu'en plus, on ne va pas oublier, vous et moi, qu'à partir de 2025, on a quelque chose qui s'appelle les campagnes municipales, puisqu'on renouvelle la classe des maires en 2026, et en 2027, on renouvelle le Parlement et la présidence de la République, et ce sera la fin, youpi, du mandat d'Emmanuel Macron.
Alors, le Parlement, c'est pas sûr, il faudra une dissolution, mais...
Normalement, oui. Voilà. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'il y aura un autre locataire à l'Élysée.
Ah, c'est sûr, voilà. Là, pour le coup, on a une boule de cristal. On ne se trompera pas là-dessus.
Comme quoi, c'est important de garder l'espoir. Voilà, merci beaucoup Pierre-Marie Perrin. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires publiques d'Elio. Elio, qu'on voit chaque mois d'ailleurs dans notre grande tournée.
Les clés de la ville.
Des clés de la ville. Vous êtes avec nous le mois prochain à Besançon.
Merci beaucoup.
Voilà, accompagné de Grégoire. Grégoire, on enchaîne avec notre prochaine interview.
Allez.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.